France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Blandine Rinkel. À 19h40, Affaires critiques. Lucille Como nous parlera du nouvel album de Ryuichi Sakamoto, intitulé 12. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. La gare de Saint-Denis-Pleyel va être surmontée en 2026 d'un nouveau lieu de culture. Blanche de Lestrange nous en dira plus sur ce projet dénommé Pleyel en mouvement. 19h50, Affaires à suivre en compagnie de l'autrice et photographe Léa Hirschfeld, en résidence à la Villa Albertine. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Grégory Wallon et Alex Dang à la prise de son. Bonsoir Blandine Rinkel.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Ça commence bien avec le générique.
J'adore ce générique, ouais, j'adore, et j'adore la série Succession et bientôt une nouvelle saison.
Ouais, t'es impatient, hein.
Ouais, très impatient.
Comme on était impatient de découvrir, c'était au mois d'août, septembre dernier, ce nouveau roman de signé Blandine Rinkel, Vers la violence, chez Fayard. Depuis, il y a eu un court texte, Les Abus Gris, qui a été réédité tout récemment, il y a quelques jours, au Mille et une nuits, suivi d'une discussion avec Arthur Teboul. Enfin, c'est chez Alt que l'on peut lire « A-t-on encore le droit de changer d'avis ?» Voilà, ô combien de quoi nourrir notre discussion ce soir, essayer de savoir ce qui nourrit votre plume. Celle aussi qui a été journaliste, mais celle qui écrit aussi des paroles de chansons, du groupe à géométrie variable Catastrophe. Il faudrait ajouter que vous êtes danseuse, chanteuse bien sûr. Donc comme il faudrait plusieurs émissions pour faire le tour de vos activités, on va se concentrer aujourd'hui sur votre plume. Grandir dans une impasse, qui plus est fille unique, ça donne envie d'aller voir ailleurs.
Ouais, ça fait lire déjà. Je pense que j'ai une passion qui provient d'un isolement un peu. Au départ, je me suis sentie quand même très seule longtemps. Et dans les livres, en fait, il y avait des voix, il y avait des gens qui vous parlaient, qui vous abandonnaient pas, qui restaient là. Parce qu'un livre, enfin, chaque fois que je commence un livre, et c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais perdu, c'est une promesse. Enfin, c'est-à-dire que je sais qu'il y aura une fin à ce livre. Je sais que la personne continuera à me tenir la main ou à me parler. Et c'est vrai que je m'habitue pas tellement, de manière générale dans la vie, aux visages qui passent, aux gens qu'on frôle comme ça et puis qui disparaissent. Quelque chose qui ne cesse de me blesser. Mmh. Et dans les livres, il y a cette promesse tenue. Il y a quelqu'un qui reste.
Alors ça commence, enfant, avec Baba, la comtesse de Ségur, mais ça va après, jusqu'à la fin de l'adolescence, à Paul Auster ou Nancy Houston, mais d'autres vont beaucoup compter. En premier lieu, on en parle très souvent dans cette émission, Virginia Woolf, on en parlait hier encore avec Pauline Perrane, on en a parlé avec Agnès de Sarthe, forcément, avec Alison Bechdel, avec Amandine Gay, avec Erin Anne, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, mais ça a ouvert quoi pour vous, Blandine Rinkel, la lecture de Virginia Woolf?
Alors, c'est très précisément la lecture des vagues de Virginia Woolf qui... Je crois qu'il m'a autorisé à me dire qu'on pouvait formuler les non-dits. C'est quelque chose de très bête, mais c'est toujours là-dessus que, je pense, repose la manière dont j'écris. Quand je sens que quelque chose n'a pas été dit ou a été mal dit, voilà, qu'il y a des choses tues dans la vie, dans les interactions vraiment du quotidien, mais aussi de manière plus générale, à l'échelle, je sais pas, de la société, enfin, voilà, tout ce qui relève du non-dit. Me semble intéressant. Je me dis, tiens, là, il y a matière à écrire. Et ça, je l'ai vraiment compris, trouvé en lisant ce livre à la structure si étonnante où il s'agit de cinq personnages qui parlent les uns des autres et qui dessinent les contours les uns des autres, qui ne parlent jamais d'eux-mêmes, mais qui parlent des autres, et en parlant des autres, parlent d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Mais qui formulent ce qui n'est pas dit et qu'ils formulent depuis une sorte de point aveugle aussi. Enfin, je trouve qu'en lisant Virginia Woolf, il y a quelque chose de très souterrain, très très intime. C'est aussi un rapport à l'invisible, en fait. Et ouais, c'est ce que je traque, je crois, quand j'écris et quand je lis.
Écrire, ça commence quand pour vous?
Ça commence en recopiant les mots des autres. Ça commence très tôt. Ça commence à, je sais pas, 11 ans, 10-11 ans. J'avais écrit un premier livre qui s'appelait, enfin, livre, le mot est vraiment très, très présomptueux. un premier quelque chose qui s'appelait « Nous les gens ». Et en fait, je recopiais des petits bouts de livres que je lisais ici et là, et puis je les complétais en regardant les gens passer devant ma fenêtre, quoi. Donc j'avais, c'est-à-dire que je lisais, puis je recopiais des bouts, et puis je complétais en me disant tiens, tel monologue dont je recopie un bout pourrait appartenir à telle personne que je vois passer. Enfin bref, ça s'appelait Nous les gens.
11 ans.
À peu près, quoi. Mais bon, c'était pas une écriture très. Très exigeante.
C'était le début, tout de même.
C'était le début des carnets, ouais. C'était le début de se dire, tiens, bah, un peu de la même manière que le livre ne vous abandonne pas, avoir un carnet sur soi, c'est, je sais pas, c'est avoir une arme aussi, je crois. Assez vite, je l'ai senti comme ça. C'est quelque chose qui protégeait. Enfin, moi, je suis très, très susceptible d'avoir honte. La honte vient très facilement chez moi. Et avoir un carnet me permet de, je sais pas comment dire, de me protéger, de m'armer, de me dire, tiens, ce qui fait honte peut être dévidé et puis on va essayer de le transformer, quoi.
Dans ce court texte « A-t-on encore le droit de changer d'avis ?», vous écrivez « Le matin de mes 18 ans, je me suis coupé les cheveux et j'ai décidé d'abandonner la musique, la scène et la danse, de renoncer à ma lubie d'ouvrir un jour un bar. J'allais me consacrer au livre. » Est-ce que vous pensez que ça existe, la vocation, dans une Rinkel ?
Je sais pas si la vocation existe. Je sais qu'en tous les cas, moi j'avais décidé de, enfin j'ai essayé de décider comme ça de manière très volontaire de me consacrer au livre, mais c'était pas du tout dans l'idée de devenir écrivain. Moi je m'autorisais pas du tout à me formuler les choses de cette manière parce que je viens donc de Rezé, une petite ville à côté de Nantes, et pour moi les gens qui osaient publier, qui étaient écrivains, qui étaient comme vous, journalistes, c'était des gens d'une sorte d'autre espèce. Il y avait une sorte de barrière magique, en fait, qui me séparait. Et évidemment, là, les mots que j'emploie aujourd'hui, j'aurais jamais pu les employer à l'époque, quoi. Il y avait vraiment un sentiment magique d'impossibilité d'appartenir à ça. Donc, moi, ce que je m'étais dit, c'est tout simplement, je vais... Je sais pas, lire, écrire, devenir peut-être professeur, être autour des livres comme ça, mais oui, non, jamais je me serais autorisée à formuler en tous les cas la volonté de vouloir être écrivain.
Alors sur cette même question, écoutez ce qu'en pense un autre écrivain qui a compté pour vous, c'est Henry Miller, au micro de Georges Belmont en 1969.
On est né écrivain, je crois, et c'était toujours dans mon esprit. Je crois que quand je revois ma vie, que j'avais toujours les yeux ouverts, curieux, j'écoute bien tout ce qu'on me dit, comprenez-vous? Et c'est peut-être déjà la préparation d'être un écrivain. Peut-être un reporter plutôt qu'écrivain, n'est-ce pas?
Les yeux grands ouverts, vous les avez toujours eus, vous, Blandine Rinkel?
Ouais, mais pas forcément par... J'adore l'écouter, je tiens à le dire quand même. Non, oui, je pense, j'ai toujours été très curieuse, mais pas forcément, pas de manière solaire et joyeuse. Je pense que j'ai été aussi curieuse. Je pense à un concept dont j'ai parlé plusieurs fois pour parler de Vers la violence, mais le dirty care. C'est Elsa Dorlin, la philosophe Elsa Dorlin, qui parle de ça et qui dit que parfois on est surattentif au monde autour de nous, on développe comme ça une sorte d'hyper curiosité parce qu'on a peur aussi, parce qu'on est inquiet, parce qu'en fait on sent que ça nous menace potentiellement. Et donc moi je pense que j'ai très tôt été très curieuse avec un mélange, je pense, oui, de curiosité naturelle, curiosité d'enfant, mais aussi une peur, quoi, un espèce de truc en alarme. J'ai très tôt été un peu aux aguets. Et c'est pareil, ça ne m'a pas quitté, quoi.
Alors, pour dérouler un petit peu le fil biographique, Henry Miller, vous dites qu'il vous a notamment donné envie de prendre des trains, ce que vous avez fait, pour Paris d'abord, puis Londres, puis retour à Paris. On ne va pas détailler ici ce soir, mais concernant votre arrivée à Paris, on pourra aussi utilement se reporter à votre deuxième roman, Le non-secret des choses, qui dit justement bien des choses, au sentiment d'être une impostrice, puisque vous l'avez mis au féminin, je pense que c'est bien que ça existe aussi au féminin. Concernant Londres, l'état d'esprit qui était le vôtre à ce moment-là, Blandine Rinkel, il y a ce court texte, Les Abus Gris, qui vient d'être donc réédité chez Mille et Une Nuits. Ce texte, il avait d'abord paru en septembre 2020 dans son ouvrage collectif Les Désirs comme désordre, chez Pauvert. Il y avait 14 écrivains qui parlaient de... du désir après MeToo. C'est ça le point de départ. Mais vous revenez dans votre texte sur une séance photo à Londres, au cours de laquelle vous avez été réifié par le regard d'un photographe. Et ce qui vous a fait entrer dans une zone grise, où du coup l'abus aussi gris pouvait l'être par ce photographe. Vous pensez contrôler ce qui arrive, le vouloir, le maîtriser, être au-dessus de la situation. Puis dans ce texte, il y a quand même cette phrase. J'écris cela pour mieux comprendre. Donc les textes courts, les essais, les romans, est-ce que c'est pas cela, écrire, chercher à mieux comprendre ?
Si, bon, en tous les cas, c'est. Je pense que je me mets au travail pour essayer de comprendre ce qui en permanence m'échappe. Enfin, j'ai l'impression qu'on avance vraiment en aveugle de manière générale dans la vie. On comprend pas grand chose à ce qui nous arrive. Et c'est vrai que lire comme écrire, c'est la chance de pouvoir se poser et se dire sur un tout petit sujet, je vais peut-être y comprendre quelque chose. Par exemple, même cette émission qu'on est en train de vivre, on comprend pas ce qu'on, je veux dire, on est en train de la faire, on se regarde, on parle, bon. Mais il faudra la laisser dégorger après. Et c'est vrai que ce que je raconte dans Les Abus Gris, c'est donc une situation où j'ai dû faire des photos dans des poses plus ou moins pornographiques. Et j'ai cru vouloir ça, enfin être en accord avec la proposition du photographe. Et en fait, sans me l'avouer tout à fait, ça m'a blessée bien plus que je ne le croyais, que je n'acceptais d'en avoir conscience. Et c'est en l'écrivant que je l'ai compris. Mais c'est en écrivant que j'ai compris précisément ce qui avait été blessant et pourquoi également je ne considère pas ça non plus comme quelque chose qui m'a traumatisée. Et je pense que cette espèce de ligne très fine entre ce qui blesse et ce qui traumatise, dans l'écriture, dans la lecture, on peut s'y tenir, sans tomber d'un côté ni de l'autre. Et moi, personnellement, ça m'apaise de pouvoir me tenir de manière juste, trouver les phrases pour parler d'une expérience sans ni la dramatiser, ni au contraire la nier et la rendre plus légère qu'elle ne l'a été.
C'est pour ça que ce texte est très précieux, donc c'est une bonne idée qu'il soit aussi réédité à part aujourd'hui. Pour L'abandon des prétentions, là, c'était le premier roman publié, signé Blandine Rincken. Il est aussi éclairé, d'une certaine façon, par ce court texte, parce que ne serait-ce que son titre, L'abandon des prétentions, parce qu'il y a cette prétention d'être cette jeune femme qui voulait ce qui lui arrive. Alors évidemment, le roman, il protège, je mets des guillemets, d'une certaine façon, mais il n'en demeure pas moins quand même un lieu d'exploration, un lieu de tentative de compréhension dans ce cas-là, concernant la figure de la mère, pardon, sa vie minuscule, comme le dit noblement Pierre Michon, et le complexe culturel de la Parisienne qui monte à Paris. Voilà, les livres, y compris les romans, pour vous, Blandine Rincken, ils servent à essayer de comprendre, d'approcher, de dire précisément les choses.
Oui, je pense que... Moi, je crois vraiment à la fiction comme une manière de radicaliser des questions que la vie nous pose de manière désordonnée. On part dans la fiction et on peut en fait prendre une question qui a été suggérée par une situation, par une interaction, par quelque chose qu'on a entendu, vu, lu, et on y va. On y va à fond, on emploie on dessine des personnages, des situations, et on va au bout, on se laisse ce temps-là d'aller au bout de la question suggérée, je crois beaucoup à ça. Et c'est pour ça que je continue vraiment à défendre la fiction. Et bon, moi, je vais de plus en plus, j'ai l'impression, vers la fiction dans ce que j'écris, au sens où mon premier livre était quand même assez largement autobiographique et je pouvais l'assumer en tant que tel. Le deuxième était déjà bien plus ambigu. Et le troisième, je tiens vraiment à ce qu'on dise et rappelle qu'il s'agit d'une fiction, même si évidemment, il y a toujours des matériaux autobiographiques qui traînent ici ou là. Mais je n'ai pas du tout envie de démêler le faux du vrai, et parce que je crois qu'il faut prendre la fiction au sérieux, que c'est pas une, enfin si on la prend au sérieux, en tous les cas, c'est pas une manière de se cacher, il me semble, mais au contraire d'affronter en y allant encore plus, quoi, d'aller plus loin.
Mais quand vous évoquez le deuxième roman publié, Le Secret des choses, alors certes on pouvait y voir comme une suite du premier avec cette jeune Océane à la conquête de la capitale, mais qui va se prendre en pleine figure les différentes formes de violence sociale, ce qui renforce aussi ce sentiment d'usurpation, d'imposture, mais c'est aussi un récit d'émancipation. J'ai lu dans un entretien que vous disiez que vous aviez pas choisi grand-chose dans votre vie, que c'était surtout les rencontres qui vous avaient fait choisir. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, par ailleurs, mais les rencontres, il y en a qui comptent plus que d'autres. Celle avec Pierre Jouan, elle, évidemment, elle a été très importante, fondamentale.
Bah pour en tous les cas toute ma partie musicale, il est clair que si j'avais pas rencontré Pierre Jouan, je me serais pas autorisée à reprendre la scène parce que il m'avait semblé qu'il fallait vraiment faire un choix. Non mais j'avais vraiment cette crainte que je pense qu'on est très très nombreux à avoir entre 15 et 20 ans où on a vraiment l'impression qu'on doit choisir notre vie de manière définitive, radicale et irréversible. Et je crois que nos affinités en fait disent quelque chose de nous, c'est-à-dire parfois on comprend pas bien pourquoi on a une sorte de, je sais pas, de coup de cœur pour telle femme, tel homme, sur le plan amical comme amoureux, mais en fait souvent ça signale que quelque chose est toujours en travail chez nous et qu'en fait on est en train d'aller le creuser. Et c'est vrai que en rencontrant ce Pierre qui faisait de la musique, je me suis dit tiens c'est drôle en fait, ça m'intéresse beaucoup la musique, ça m'intéresse bien plus que je ne me l'avoue. Et puis en contrebande voilà, on a formé ce groupe qui s'appelle Catastrophe et j'ai repris la musique et la scène bien plus sérieusement que je n'aurais jamais pensé le faire.
Alors pour l'évoquer un court instant, cette casquette de musicienne, Mandy Drinkel, on écoute tout d'abord le musicien et producteur Bertrand Burgala, dont le label Tricatel a sorti les albums de Catastrophe. Il était mon invité en juin 21.
Le fait de faire mes propres disques m'évite de faire mon disque par procuration. Le fait de pas avoir une espèce d'instinct commercial diabolique fait que je suis très modeste là-dessus. Je vais jamais dire à un artiste « Non mais enlève-moi là, ce couplet, là tu me le vires parce que ça va pas passer en radio, etc. » Donc après, j'ai pas une recette. Souvent un producteur, il a fait des tubes, on lui demande de refaire la même chose. Donc j'ai pas une recette. Donc mon rôle, c'est plus d'essayer de comprendre ce que veut exprimer l'artiste, d'être sûr que c'est ce qu'il veut vraiment exprimer, parce que parfois on veut telle chose mais parce qu'on n'ose pas une autre par exemple. Donc c'est plus déjà d'essayer de comprendre ça et d'essayer de l'aider au maximum, de le pousser, je veux pas dire accompagner parce qu'on entend beaucoup actuellement dans les discours politiques, c'est pas de l'accompagnement, mais d'essayer de faire en sorte qu'il puisse aller le plus loin possible dans ce qu'il veut lui exprimer.
Quelle place il occupe Bertrand Burgala dans ce parcours musical, Blandine Drinkel?
C'est quelqu'un que j'ai rencontré au hasard d'une émission de radio et c'est significatif que j'ai senti tout de suite à l'écoute. Et réciproquement, je pense qu'il y avait une écoute, c'est ça en fait, qu'est-ce que c'est les gens avec qui on s'entend bien, c'est qu'on les entend bien d'abord. Et je pense que il y avait très peu de jugement en fait dans sa manière de porter un regard sur des choses qui étaient très très embryonnaires que je faisais, des petits machins que j'écrivais, des petits bouts de musique. C'était très embryonnaire, c'était très brouillon, mais il y avait chez lui une attention et une manière de donner confiance à ce qui n'était qu'en germe. Et ça, c'est très rare et très précieux en fait, de sentir quelqu'un dont le regard, la générosité du regard vous augmente. Alors permet de vous accomplir, quoi.
Pour revenir à l'écriture, encore une fois, a-t-on encore le droit de changer d'avis? Vous écrivez, je réalisais en fait que je travaillais mieux, vous parlez de l'écriture, avec une activité musicale à côté. Vous découvrez que vous pouvez avoir un esprit et un corps. ça change quand même beaucoup la donne.
Pas si évident, hein.
Mais c'est vrai.
Oui, ça change vraiment la donne. Bon, c'est un jeu d'équilibre, quoi. C'est des vases communicants. Mais c'est vrai que le fait d'avoir, enfin, moi, j'ai une pratique de la danse, notamment très sauvage, quelque chose vraiment très instinctif.
Ça, c'est bon, vous avez vu sur scène, on le sait.
Ouais. Et je pense qu'il y a tout un tas de colère, voire d'amertume, de ressentiment. C'est pas des choses nobles, quoi. Mais plein de choses comme ça qu'on peut emmagasiner, je pense, quand on est dans la vie intellectuelle, on va dire. Qui se dégorgent sur scène, qui s'en vont, quoi, qui partent dans le corps, qui partent dans des rires aussi, qui partent dans quelque chose d'une sauvagerie, qu'elle soit intime ou qu'elle soit montrée sur scène, mais ouais, quelque chose de sauvage. Et ça, je peux le trouver que physiquement. Je n'arrive pas, peut-être qu'à terme, j'arriverai aussi à le faire passer dans l'écriture, un truc plus. Ouais, colérique, mais je suis pas sûre que ça soit tout à fait possible. En tous les cas, je sais que pratiquer du sport, en fait, quoi, aussi, tout simplement. Non, mais c'est vrai, suer, sentir qu'on a un corps, ça permet quand même de dégager tout un tas de, de micro-sentiments qui sont comme des poussières un peu non nécessaires, je pense. Et que ça permet de mieux penser. Enfin, moi, c'est mon expérience, en tous les cas.
Alors, corps et esprit, encore une voix à vous faire écouter, Blandine Rinkel, quelqu'un que vous aimez toujours, hein, tant qu'à faire, l'essayiste et poétesse Annie Lebrun. C'était dans La Voix Nue en 2000.
Dans le fond, quoi que je fasse, je reviens toujours à la question amoureuse. Et je n'aurais eu de cesse de parcourir, en quelque sorte, tout le spectre du sentiment amoureux, de l'amour sublime, pour reprendre l'expression de Benjamin Perret, à ce qu'on appelle la pornographie et toutes les formes d'aberration sexuelle, parce qu'il s'agit là, comme l'a si bien dit Breton, de cet infracassable noyau de nuit dont on est loin d'avoir fait le tour, comme notre époque le laissait prétendre. Alors c'est pour ça que je n'arrête pas de revenir à Fourier, à Sade, à Jarry, à Pierre-Louis, à des monuments comme Ma vie secrète, là, de cet anonyme anglais du 19e siècle. Et cela pour la raison évidente, mais que personne, à mon avis, n'a formulé aussi bien que Pierre-Louis dans sa fameuse préface à Aphrodite. Pour cette raison-là, et ça je ne peux pas m'empêcher de redire une fois de plus cette citation à laquelle je tiens tant. Ceux qui n'ont pas senti jusqu'à leurs limites, soit pour les aimer, soit pour les maudire, les exigences de la chair, sont par là même incapables de comprendre toute l'étendue des exigences de l'esprit. Alors, pour moi, c'est une affirmation capitale. Toutes les pensées qui m'intéressent reviennent autour de ce que j'ai appelé, à propos de ça, le bloc d'abîme, autour de cette obscurité qui nous fonde.
Magnifique.
Ouais, c'est bien, Annie Lebrun, toujours. Hein. Elle a compté, elle compte pour vous.
Oui, l'infracassable noyau de nuit, un sens nocturne, et puis l'importance du désir. Mmh. Moi, par pudeur, je pense que je parlerai moins d'amour et de sentiments amoureux, parce que j'ai une pudeur là-dessus, je n'en parle pas. Mais c'est sûr que le désir est premier, que le désir est moteur, et que le désir est un trouble qu'on n'a pas fini d'explorer, quoi. Donc c'est assez... C'est galvanisant, parce que chaque matin, je me réveille, j'ai des désirs qui naissent, qui sont différents, et je sais que c'est ça qui va diriger mes journées, quoi, qui va diriger et mon écriture, et mon attention aux autres. Et c'est vrai que le désir, c'est cette chose bizarre, qui est un mélange d'intellect et de quelque chose de très physique, quoi. C'est la peau. C'est la peau aussi qui nous mène.
Qu'est-ce que tu ferais pas pour la peau, chante Dominique? Ah, je pense que c'est une chanson. Puisqu'on parlait chansons, on parle musique, votre choix musical s'est porté sur la chanson « D'ici là » de Flavien Berger. Pourquoi ?
Parce que c'est à la fois mystérieux et précis. C'est Michel Tournier qui disait que les attributs essentiels de la poésie, c'est ça, à la fois du mystère et de la précision. Et... quand j'écoute Flavien Berger, pour le coup, il y a vraiment quelque chose de très physique. C'est vraiment une musique qui est capable de me troubler, de me faire perdre mon chemin, d'avoir vraiment un effet très très concret sur mon corps. Et puis parce que je trouve qu'il y a aucun cliché, jamais, ni dans les paroles, ni dans le choix des arrangements, des instrumentations. C'est dépourvu de clichés, dépourvu de... Il n'y a pas de panoplie, quoi, de langage. Et ouais, c'est très singulier, donc ça nous pousse à l'écouter vraiment pour comprendre comment ça peut agir comme ça sur nous, quoi.
Bah on l'écoute, Flavien Berger.
C'est flippant de te croiser là, dans la foule et dans la joie. Je fais comme si je te voyais pas. C'est peut-être la dernière fois. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage. Chaque décollage. geste secret. Quand tout s'éteint, quand vient le soir, plus rien après ton étreinte que la mémoire. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage. À chaque décollage, tu te rapproches, tu me fais peur. Là, je ne suis que spectateur, mais j'imagine que viendra l'heure de t'abandonner mon cœur. Quelle vie m'attend juste après toi? Je cherche mais je ne sais pas. Je saurai un jour et d'ici là, je ne donne pas ma langue au chat.
Flavien Berger, d'ici là, extrait d'un album qui va arriver.
Le 17 mars. Chanson sur l'étage 13.
Très bien. On le guette aussi. Alors, vous aviez proposé d'autres choix pour cette séquence musicale, Mandarin Rincal, mais vous avez changé d'avis ce matin, ce qui est votre droit.
Tout à fait.
Et qui m'amène à cette question que j'emprunte évidemment à votre livre. Sur quoi avez-vous changé d'avis ces trois dernières années?
Ah, je suis embêtée parce que la dernière fois que j'ai répondu à la question, je m'en suis voulu.
C'est vrai? Ouais. On passe à la suivante.
Non, j'ai pas réfléchi.
Bon, vous avez changé d'avis sur la musique que vous vouliez entendre ce soir.
Voilà.
On s'arrête là. Mais pour revenir à votre écriture, alors, qu'est-ce qui déclenche celle du dernier roman, Vers la violence? Il y a quoi au départ? Il y a une idée? Il y a un personnage? Il y a une image?
Il y a un titre. Il y a trois mots. Vers la violence, que je trouvais assez euphonique. Pas que, c'est pas seulement parce qu'ils sont euphoniques. Dans la douceur, tu étais euphonique aussi. Mais je pense que il y avait le sentiment d'avoir un petit, d'éprouver un petit malentendu avec le monde, de me sentir trop domestiquée, trop polie, trop souriante. Non, parce que j'aime le sourire, mais. Oui, trop domestiqué, alors que il me semble que dans ma vie de tous les jours, il y a quelque chose de bien plus sauvage, de plus âpre, dans ma manière de lire et dans ma manière de parler et de nouer des relations. Quelque chose de plus violent, en fait. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette ombre? Qu'est-ce que c'est que cette chose dont je ne parle pas, en fait? C'est la violence. Donc, j'ai creusé plusieurs pistes narratives. Qui avait comme point commun cette tonalité un peu mystérieuse et violente, quoi. Je voulais aussi faire quelque chose avec plus de suspense, plus de tension narrative. Ça, c'était vraiment un défi que je m'étais donné à moi-même parce que j'ai beaucoup de mal, en fait, à tenir une narration. Et donc, il y a ça au départ. Il y a une tonalité. Et quelque chose aussi de formel. Et puis, en creusant, en me disant, mais pourquoi, en fait, tu cherches quelque chose de... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est que cette violence? Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de plus masculin, en fait. Le masculin m'intéressait. J'avais pas parlé d'hommes dans mes livres précédents. Il y avait aucun homme. Enfin, il y avait un père, mais très lointain, et qui était vraiment une figure fantomatique. Et en fait, voilà, ce qui était de plus masculin en moi, c'était sans doute le père. Et donc, de fil en aiguille, j'ai écrit cette histoire sur une relation ambivalente entre une fille et son père. Une fille élevée comme un petit monstre de virilité. Et comment est-ce qu'on se défait d'une emprise d'un père violent.
D'ailleurs, d'une question, on va dire, globale, on dirait sociétale, la ramener dans la sphère familiale, ça permet justement, alors c'est souvent le cas dans les bons livres, c'est-à-dire on part de la sphère intime pour parler du monde.
Ouais, bizarrement ça se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vraiment en creusant dans ce qu'on a de plus intime que ça finit par rejoindre quelque chose de plus universel, quoi. Mmh. Et là, dans mon cas, ça a vraiment été ça. J'ai vraiment essayé d'aller dans des points aveugles, des questions que j'osais pas me poser, des questions que mes proches n'osaient pas me poser, et vraiment des choses, des scènes, mais ça, tout a été ensuite transfiguré dans la fiction. Mais au départ, il y a vraiment l'idée d'affronter des zones aveugles, des points de malaise, d'y aller, de rentrer dans le malaise. Et à force, en fait, d'aller dans quelque chose de très très intime, très malaisant, j'ai fini par me dire en fait, c'est des sujets plus vaste, c'est en tous les cas des sujets qui animent la vie sociale. Enfin, cette question de la violence masculine, de l'éducation, qu'est-ce que deviennent les pères aujourd'hui, alors que le patriarcat, enfin, qu'on remet en cause le patriarcat, il y a le père, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette figure du père aujourd'hui? Mais voilà, c'est pas venu, c'était pas volontaire. Je me suis pas dit que j'allais parler de ces sujets-là. C'est vraiment l'inverse, quoi. C'est en creusant, mais c'est un peu comme l'idée d'un tunnel, quoi. Vous creusez tellement que vous finissez par arriver de l'autre côté du tunnel et à retrouver la lumière, quoi.
Mais pour ce qui est de la construction de ce roman, qui est un roman ample, hein, qui nous emporte pour dans des émotions puissantes, qu'est-ce qui décide, par exemple, que le père a sa place avec son écriture à lui?
Je voulais lui donner la parole. Donc c'est une, la narratrice est une, d'abord une petite fille, puis une jeune femme, ça va jusqu'à 35 ans à peu près, qui parle d'un homme, et cet homme-là, on n'entend jamais sa voix. Et dans un souci, je pense, de justesse, en fait, il me tenait à cœur qu'on l'entende, qu'on entende non seulement un autre type de voix, mais aussi des scènes que seul lui peut raconter, qu'elle ne peut pas avoir vues quand elle était enfant, et qui permettent peut-être quand même de compléter un tableau et de comprendre sans excuser d'où vient la violence.
Bon, il écrit sa défense quand même. Ce qui est
il écrit sa défense.
Un type d'écriture particulier.
Il fait ce qu'il peut. Mais ça va aussi avec le personnage le personnage de Gérard, que j'ai essayé de construire comme un ogre qui est à la fois terrifiant et à la fois drôle, à la fois drôle et puis très narcissique, et avec quelque chose quand même d'un petit peu grotesque dans ce narcissisme-là. Et donc ce narcissisme va jusqu'à écrire pour ma défense, ouais. Gérard par Gérard. Ouais. Donc il y a un mélange de... Je voulais réellement, éthiquement, donner quand même la parole à quelqu'un qu'on accuse et qu'on défend tout le long du livre, mais bon, qui n'a pas la parole, quoi. Je voulais lui donner la parole, et puis j'ai voulu le faire avec une légère tonalité humoristique que ceux qui savent rire reverront.
Le fait est. Question d'actualité, est-ce que vous avez vu qu'il y a un loup qui a été trouvé aux portes de Paris ces derniers jours?
Non, non.
Je pensais que ça pouvait vous intéresser, d'abord parce que ça ouvre, c'est une sorte de prologue au livre, la disparition, réapparition des loups. Mais votre écriture aussi, avec ce livre-là, est quand même plus tranchante, plus crue, apparemment plus simple, j'ai dit apparemment. Et pour dire encore une fois quelque chose de la violence, et j'ai lu que vous aviez vous-même lu des essais en lien avec les animaux.
Ouais. En fait, l'animalité dans le livre et de manière générale dans la vie permet, je crois, de s'extraire des panoplies de langage qu'on a pour parler de nos activités sociales, et permet de parler de l'indéterminé, en fait. En fait, quand on est, par exemple, vous me dites, il y a un loup aux portes de Paris, bon, on s'imagine, imaginons, on est, je sais pas quoi, sur l'autoroute, je sais pas où était ce loup, mais...
Il est trouvé dans une forêt, mais on l'a trouvé mort, hélas.
Ah non.
Enfin, hélas. Bon, on trouvait mort. Point.
Mais quand on voit un loup, ça exerce sur nous une forme de... Enfin, j'imagine. en réalité. Mais une forme de stupéfaction, tout simplement voir des images, moi, de loups, de stupéfaction, on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne comprend pas, c'est indéterminé, ça pourrait aller dans toutes les directions. Et moi, dans l'écriture, c'est ça qui m'intéresse, je crois, arriver sur des espèces de moments indéterminés, stupéfiants, bizarres, on ne sait pas ce qui va se passer, et on est là, on est troublé. Et on y va, on tourne la page d'après et on continue quand même. Et donc, ouais, ça m'a beaucoup intéressé de lire des choses de Baptiste Morisot, de Nastasia Martin, qui a été très importante dans l'écriture de Vers la violence, donc une anthropologue qui, elle, s'est fait mordre le visage par un ours et qui raconte qu'à la suite de cette morsure, elle est devenue mi-ours, mi-femme, une espèce de créature comme ça, comme si elle avait changé métaphysiquement, en fait, d'être après s'être fait mordre le visage par un ours. Et ça réouvre des possibles. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans notre rapport aux animaux, les regarder de près. C'est aussi potentiellement regarder ce qu'on pourrait devenir, ce qu'on pourrait faire avec eux, ce qu'on pourrait être d'autres, quoi. Peut-être un animal moins directement civilisé, social, docile. Ça m'intéresse.
Pour conclure cet entretien, oui, déjà, une dernière question. Est-ce que vous en avez fini avec le sentiment d'imposture ?
Pas du tout.
Du tout, aucun progrès.
J'en ai fini, je pense. Les zones où l'imposture me faisait peur sont. C'est-à-dire, par exemple, je me sens pas impostrice. C'est drôle ce mot. Je l'avais jamais prononcé, je crois, à l'oral. Quand j'écris, parce que j'écris beaucoup, donc tout simplement la somme de travail me fait me dire que j'ai quand même le droit de continuer à le faire parce que je le fais beaucoup. Mais il y a toujours des zones, il y a toujours des portes que j'ouvre et où je me sens, j'ai honte, quoi. Je sais pas si je me sens imposteuse, mais j'ai honte. Ouais, la honte, on n'en finit pas de la honte. Mais c'est pas grave, c'est un moteur, ça fait vivre aussi le désir et la honte. Hop.
Désir et la honte, on finit là-dessus, je pense que c'est parfait. Avec un rappel de vos plus récentes publications, le roman Vers la violence chez Fayard, ce court texte Les abus gris, réédité au mille et une nuits, avec, suivi d'une conversation avec Arthur Teboul, et puis enfin chez Alt, on peut lire « A-t-on encore le droit de changer d'avis ?» Merci beaucoup Blandine Rinkel.
Merci Rinkel. Beaucoup.
Je vais y arriver jusqu'au bout. Blandine Rinkel, d'avoir été ce soir notre invité.
Merci Arnaud Laporte.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Joie de vous retrouver pour Affaires critiques. Et ce soir, on va plonger avec vous dans le dernier album de Ryuichi Sakamoto, album intitulé 12.
C'est pas nécessairement le morceau du disque le plus représentatif, mais c'est la manière que je préfère, le piano seul, dans cet album de Ryuichi Sakamoto, intitulé donc 12 en chiffres, et qui nous parvient dans un moment très singulier pour son compositeur et interprète. Alors Sakamoto, c'est un musicien japonais, né en 1952, un des pionniers de la musique électronique japonaise dans les années 70, avec son groupe le Yellow Magic Orchestra, maître des synthétiseurs et des sampleurs, pianiste aussi. Il est passé par de multiples formes et de multiples milieux musicaux, a composé un opéra, des sonneries pour téléphone portable, la bande originale de gros films hollywoodiens et de films d'auteurs européens, et puis des dizaines d'albums en solo, dont le dernier, 12, sort donc dans une période douloureuse, marquée par sa lutte contre un nouveau cancer, on lui en avait déjà diagnostiqué un il y a une dizaine d'années, et aussi par l'annonce du décès de son ancien partenaire dans le Yellow Magic Orchestra, Yukihiro Takahashi, dont on a appris la mort il y a une dizaine de jours seulement. Difficile donc de ne pas entendre le disque comme une forme crépusculaire ou testamentaire, d'autant qu'il ouvre avec un morceau composé de longues nappes électroniques ouatées, une ambiance nébuleuse qui se réverbère comme dans un au-delà. Il faut sans doute s'extraire de cette unique vision nécessairement rétrospective et qui de fait est biaisée par les circonstances pour ne pas entendre que ça et pour vraiment prêter attention à la musique. Sakamoto l'a composé et enregistré le long de quelques mois. Chaque morceau porte le titre chiffré d'une date précise. Ce qu'on vient d'entendre par exemple, c'est 2022-03-02, constituant ainsi une sorte de journal, forme très différente du testament, forme du présent pur. Et de fait, les morceaux sont aussi disparates que les probablement jours. On y trouve la manière classique impressionniste, proche de Debussy. Il y a du Satie aussi dans les accords et les couleurs. On y entend des sons électroniques étirés, des carillons égrenés, des morceaux dans lesquels on distingue les pédales du piano qui s'enclenchent ou la respiration régulière et légèrement sifflante du musicien, signe à la fois possiblement d'agonie et de grande sérénité. Il y a beaucoup de douceur et de vie dans le disque, et surtout dans la deuxième partie, à partir du morceau, le seul qui porte un sous-titre, le sous-titre Sarabande, j'ai fini par y entendre moins un outre-tombe qu'une stase in utero, d'où renaître peut-être.
Note d'espoir pour finir quand même pour ce 12 de Ryuichi Sakamoto qui signe toujours de très 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 beaux disques. Celui-ci a paru chez Milan Records. Merci beaucoup Lucille Como. Bonsoir Marie Sorbier.
Bonsoir Arnaud.
Affaire en cours nous entraîne ce soir dans le Grand Paris. Vous avez des nouvelles ?
Oui, quelques nouvelles. Pleyel en mouvement, c'est le nom du futur projet qui va bientôt investir la gare Saint-Denis-Pleyel dans le cadre donc du Grand Paris. Alors la future gare de Saint-Denis, elle sera la plus fréquentée de tout ce Grand Paris avec près de 250 000 voyageurs chaque jour puisqu'elle se trouvera au croisement de 4 lignes de métro et d'une de RER. Alors au-dessus de cette gare va s'élever un nouveau centre de culture dont le bâtiment a été imaginé par l'architecte japonais Kengo Kuma. L'ouverture de ce centre culturel est prévue pour 2026 et je suis allée demander des précisions sur ce Pleyel en mouvement à Blanche de l'Étrange. Blanche de l'Étrange, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice artistique de la Fondation Art Explora. Vous allez prendre en charge le volet artistique de ce nouveau lieu, entre autres. Concrètement, que va-t-on pouvoir y voir et quels sont les objectifs de ce Pleyel en mouvement ?
Alors, les objectifs de ce Pleyel en mouvement répondent à en fait des objectifs qui sont des missions de la Fondation d'Art Explora. Les missions de la Fondation Art Explora, qui existe depuis maintenant 3 ans, cette fondation, a pour double objectif à la fois une dimension des publics qui est essentielle, qui est ancrée au cœur même de l'identité des missions de la Fondation, d'aller vers les publics, de rendre l'art le plus accessible possible, de créer des dialogues entre les publics, les différentes disciplines de la création artistique, et puis tous les horizons géographiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment une dimension assez globale d'itinérance aussi, à travers des projets de bateaux-musées, typiquement, qui va à la rencontre de différentes cultures. Et finalement, ces missions, à la fois d'intérêt général, de se dire comment l'art peut changer une vie, comment la culture peut être accessible au plus grand nombre, se retrouvent aussi à travers notre programmation artistique qui, avec les artistes, la création contemporaine qu'on soutient, sous toutes ses formes à nouveau, que ce soit de la danse, aux arts visuels, à la littérature, à l'écriture, à la vidéo, vont se retrouver ancrés dans ce territoire de Seine-Saint-Denis à travers ce projet très très ambitieux de centre culturel de Pleyel en mouvement.
D'où viennent les fonds de la fondation ?
Alors c'est une fondation qui est pour l'instant soutenue pour la plus grande majorité par Frédéric Jousset, qui est donc un grand mécène de la culture depuis un certain nombre d'années, un administrateur du Louvre qui soutient des très grandes institutions depuis très longtemps, et puis qui a décidé vraiment de créer cette fondation qui a pour objectif de répondre à l'intérêt général, donc qui n'est pas une fondation d'entreprise, qui a vraiment cette mission d'aller créer différentes communautés. On travaille avec énormément de bénévoles sur le territoire français et européen qui sont convaincus de cette mission que finalement, là, la culture est vecteur de cohésion sociale, est fédératrice, permet des rencontres, permet des dialogues. Et donc, on travaille énormément dans les EHPAD, les hôpitaux, les écoles, avec cette dimension aussi voilà, d'engagement, de citoyenneté culturelle. Et c'est pour nous essentiel, comme identité de la Fondation, et c'est quelque chose qu'on veut absolument développer au cœur de ce projet de Pléiel en mouvement.
Alors, vous parlez d'accessibilité à tous les publics de la culture. Ce nouveau lieu de culture va se trouver à Saint-Denis. Comment faire en sorte que ce ne soit pas comme plusieurs lieux de la décentralisation où finalement c'est un public parisien ou en tout cas urbain qui se déplace et qui va dans ces lieux-là, mais bien un lieu qui va être pour les habitants du territoire?
Absolument, c'est absolument essentiel et évidemment au cœur de nos préoccupations. Alors, il se trouve que déjà, le fait d'être dans une gare, c'est quand même assez atypique et c'est vraiment inédit. Un centre culturel dans une gare, c'est, vous l'avez dit, 250 000 personnes qui passent par jour. Donc déjà, il y a cet enjeu-là, se dire finalement, je ne vais pas juste prendre le train métro, mais je vais prendre du temps. Donc la question de la temporalité dans ce lieu-là, elle est essentielle. Comment prendre du temps pour aller découvrir une exposition, aller voir un spectacle, etc. Alors que finalement, on a pour but normalement une déambulation assez rapide, un flux qui est assez rapide. Donc il y a cet enjeu-là. Il y a évidemment l'enjeu du territoire qui est absolument essentiel. Et la question des publics, pour nous, là-dessus, elle est au cœur de la programmation qu'on va incarner dans ce lieu. La Seine-Saint-Denis. La dimension associative, la dimension participative, la dimension des pratiques amateurs, toutes les institutions culturelles aussi qui sont ancrées dans ce territoire, en fait, vont être partie prenante de ce projet. C'est un projet qui est purement collaboratif. Comme tous les projets qu'on fait au cœur de la Fondation, on n'est pas là pour aller parachuter un contenu avec une identité, mais vraiment s'appuyer sur la richesse du territoire et co-créer ce contenu, en fait. Donc chaque projet, à chaque fois, est repensé par rapport à l'identité qu'il incarne d'un territoire en question. Et donc, on va travailler à des moments de préfiguration. On va, dès 2024, commencer à évidemment travailler main dans la main avec les associations, avec toutes les institutions culturelles du territoire pour co-bâtir cette programmation ensemble.
Il y a aussi un autre élément dans ce projet Pléiel en mouvement, c'est l'architecture. C'est un bâtiment qui se veut être iconique, qui se veut être en tout cas visible et mémorable. Est-ce que pour vous, l'architecture est aussi un moyen d'attractivité ?
Absolument. Kengo Kuma est un architecte extraordinaire, certainement un des architectes les plus importants aujourd'hui, qui se pose aussi la question du local, du bois, de l'éco-responsabilité, donc finalement des enjeux très très contemporains. Il y a une poésie dans son travail qui est extraordinaire, donc ça va être un bâtiment totalement emblématique.
Vous pouvez nous le décrire en quelques mots ?
Alors, y a quelques images qui sont montrées maintenant, parce que c'est des simulations, donc évidemment on va travailler main dans la main avec les équipes de l'architecte. Mais le bois sera au cœur du projet. Le lien entre intérieur et extérieur, donc beaucoup de terrasses, beaucoup d'espaces d'expression aussi extérieur, donc créer vraiment ce double regard entre des espaces d'exposition très ouverts sur ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est aussi essentiel dans le message qu'on porte, c'est ce message d'ouverture vers l'autre aussi, qui permet finalement des espaces d'expression aussi en extérieur, et pas que il faut rentrer dans le bâtiment, il faut... Donc la question aussi de l'accessibilité du bâtiment, elle est essentielle pour faire comprendre aussi le message qu'on porte.
Ce qui est intéressant aussi dans ce projet-là, c'est qu'on est à la croisée du public et du privé. On est dans une gare et en même temps, là, c'est une fondation qui va porter ce centre culturel. Comment travaillez-vous entre, justement, une fondation privée et les institutions publiques qui sont autour?
Alors, c'est une vocation qui est en train d'être reconnue d'utilité publique. Donc, en fait, il y a une vocation publique et privée, dans le sens où on va être... elle est en transformation, puisque ça fait que 3 ans, hein, finalement, qu'elle existe. Mais elle a vraiment cette vocation d'intérêt général. Et donc, finalement, d'être en partenariat aussi avec des acteurs publics, évidemment, et en soutien avec d'autres partenaires. Donc, on n'est pas les seuls au cœur du projet, même si elle est portée par la Fondation Explora. Encore une fois, même dans le soutien, ne serait-ce que financier, de conception, l'idée, c'est d'allier différents acteurs publics et privés autour de ce projet. Donc là aussi, c'est collaboratif. Et après, dans les espaces en tant que tels, la façon dont on le pense, vous parliez du bâtiment, ça va s'articuler forcément entre différents espaces, comme un centre culturel, c'est-à-dire des espaces d'exposition, mais aussi des espaces de résidence, d'incubateur. Donc ça va être vraiment un lieu de vie, un poumon, en fait, culturel et artistique, qui au-delà du fait que d'aller voir simplement entre guillemets une exposition d'un spectateur, on va être acteur de ce propre lieu culturel. Donc c'est un lieu qui va vivre au travers de la création.
On guettera donc l'ouverture prévue pour 2026 pour l'instant. Merci beaucoup Blanche Delétrange.
Et merci à vous Marie Sorbier. Chaque vendredi cette saison, nous prenons des nouvelles des résidentes et résidents de la Villa Albertine aux États-Unis. Ce programme piloté par Gaëtan Bruel et Emma Butin qui propose des résidences sur mesure à les artistes ou chercheurs de toutes disciplines. On en parle ce soir avec l'autrice, photographe, créatrice de podcast Léa Hirschfeld qui est en ligne avec nous. Bonsoir ou peut-être plutôt bonjour pour vous. Vous êtes où ?
Bonjour, je suis à Boston. Voilà, donc, en ce moment.
Donc c'est bonjour. Diffusé depuis mai 2021 sur toutes les plateformes d'écoute, votre podcast décalé donne à entendre la voix de frères, de sœurs, de personnes en situation de handicap, une situation que vous connaissez vous-même avec votre frère atteint d'un trouble neurologique. Et puis par ailleurs, depuis 2015, vous passez vos étés à Zeno Mountain Farm dans le Vermont où se retrouvent des personnes avec et sans handicap autour de projets, de théâtre, de cinéma. Zeno Mountain Farm, c'est une utopie en action, une sorte de société idéale fondée sur l'inclusion. Mais qu'est-ce qu'on y fait concrètement, Léa Hirschfeld ?
Concrètement, on y vit des moments assez magiques ensemble. On s'y retrouve tous les étés pour créer une comédie musicale. Mais donc c'est un petit peu le projet central. Mais autour de ça, on vit tous ensemble. Donc on vit en haut d'une montagne, dans le Vermont, dans un cadre assez utopique. On dort dans des cabanes dans les arbres qui sont adaptées aux fauteuils roulants. On prend nos douches avec la tête dans les arbres. Et tout le monde participe, grosso modo, à ce que la vie en communauté fonctionne. Donc on cuisine, on range, on organise toutes sortes d'activités, on se fait des concerts, on va au resto. Donc c'est un peu des moments de vie que la plupart des gens qui ont des handicaps, pour la plupart mentaux, qui viennent là-bas, n'ont pas au quotidien, chez eux. Donc c'est une espèce de bulle où des personnes avec et sans handicap peuvent juste vivre un quotidien créatif et agréable.
Alors c'est à partir de ce lieu que vous avez conçu votre projet de résidence à la Villa Albertine. Quel est le principe de cette résidence ?
Alors moi, je vais rencontrer les personnes que j'ai rencontrées à Zeno, mais chez eux. Il y a une grande diversité d'origine sociale, culturelle, économique là-bas. C'est un endroit où personne ne paye. Donc personne n'est payé et personne ne paye pour y aller. Ce qui permet d'avoir vraiment des gens qui viennent de partout. Et moi, je suis en ce moment à Boston, mais j'étais dans le Vermont la semaine dernière. Je serai à New York bientôt, ensuite à Atlanta, en Caroline du Nord et en Californie. Et ça va permettre vraiment de voir un petit peu comment ça se passe chez les uns et les autres, parce que entre vivre dans un milieu urbain et vivre dans un milieu rural, les réalités changent drastiquement, que ce soit du point de vue de l'autonomie pour se déplacer, des aides, par exemple, qui varient selon les États aux États-Unis. Il y a une vraie diversité qui est extrêmement intéressante à explorer. Et puis, puisque c'est un lieu que les gens ne côtoient que l'été, il y a tout le reste de l'année. Et c'est des réalités complètement différentes. Et c'est surtout une vie sociale qui est en général beaucoup moins stimulante pour la plupart. Donc moi, j'essaye aussi de comprendre quel est leur quotidien. Parce que derrière tous les sourires et tout le fun qu'on partage l'été, il y a un quotidien qui est extrêmement différent.
Alors ce travail en cours, Léa Hirschfeld, c'est vrai qu'il va aussi nous renseigner sur la façon dont les Américains font l'expérience du handicap tout au long de l'année. Est-ce que l'idée, c'est peut-être aussi d'en tirer quelques leçons à rapporter chez nous ?
Mais absolument, mais c'est vraiment un endroit où, en tout cas, Zeno m'a appris à avoir beaucoup plus d'humilité et de créativité, parce qu'il y a plein de moments où on ne sait pas, en fait. On ne sait juste pas comment communiquer, on ne sait pas comment aider une personne à manger ou à se déplacer, etc. Et ça demande du temps, ça demande prendre du recul. Et je pense qu'on est dans des sociétés qui vont extrêmement vite, où on est un petit peu trop sûr de nous. Et je pense qu'en écoutant un petit peu ce que les uns et les autres ont à dire et en écoutant leur récit intime, quoi, leur récit de vie, il y a énormément de choses à comprendre. C'est du cas par cas, en fait, qu'il faudrait pouvoir avoir. Donc, je me rends bien compte que dans la société, c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a vraiment une leçon de humilité et créativité qu'il faut avoir. Ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'absence de perspective de la part des éducateurs et des médecins. Que j'entends de la part des familles ou des personnes concernées très souvent, c'est il ou elle est incapable de ci ou de ça, c'est beaucoup trop compliqué. Moi, dans ma famille, par exemple, pour mon frère, mes parents ont eu le antenne est inéducable alors qu'il avait 4 ans. Donc en fait, c'est juste pas sérieux de penser comme ça et de déterminer les limites des uns et des autres avant même de les avoir explorées. Donc voilà, je pense qu'il y aura énormément de leçons à tirer, mais on verra qui tirera quoi.
En quelques mots encore, je l'ai dit, vous êtes également autrice, photographe. Est-ce que cette résidence vous permet ou vous incite aussi à écrire et à photographier?
Absolument, oui. Je prends des portraits de toutes les personnes que je rencontre. J'essaye aussi de prendre des photos des environnements dans lesquels je suis et j'écris un peu tous les jours. J'avoue que je m'enregistre aussi parce que parfois j'ai juste pas le temps ou l'énergie. Mais ouais, j'essaye d'avoir un journal de bord et je le partage aussi sur l'Instagram de Décalé, qui est décalé-du-bas podcast. Donc, sur lequel je partage un peu le quotidien de ma résidence.
On va pouvoir la suivre, notamment comme cela. Merci beaucoup, Léa Hirschfeld, pour ces quelques instants avec nous. Alors, je précise que Zeno Mountain Farm est partenaire de votre résidence, tout comme l'UNAPI, le réseau associatif qui rassemble plus de 330 associations de parents et d'amis de personnes handicapées en France. Et puis, nous, vendredi prochain, nous prendrons des nouvelles d'une ou d'un autre résident de la Villa Albertine. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture et via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino.
Racontez-nous ce livre qui vous a tant marqué. L'auteur ou l'autrice qui ne quitte plus votre table de chevet. Tenez, quels sont les petits nouveaux dans votre bibliothèque?
Nicolas Herbeau.
C'est à vous de jouer. Lecteur, lectrice, auditeur, auditrice de France Culture, partagez vos avis, vos envies, vos points de vue.
Salut Book Club, c'est Chloé.
Pour faire aimer les livres et la lecture.
C'est un livre coup de poing.
C'est ensemble qu'on prépare cette émission. Le Book Club de France Culture, c'est d'abord le vôtre.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, France Culture.fr et l'appli Radio France.